Lousteau envoya chercher un cabriolet, et les deux amis allèrent rue Mandar, où demeurait Vernou, dans une maison à Alais. Il y occupait un appartement au deuxième étage. Lucien fut très étonné de trouver ce critique acerbe, dédaigneux et gourmé dans une salle à manger de la dernière vulgarité. Tendu d'un mauvais petit papier briqueté, chargé de mousse par intervalles égaux, orné de gravures à l'aquatinta dans des cadres dorés, attablé avec une femme trop laide pour ne pas être légitime, et deux enfants en bas âge perchés sur des chaises à pieds très élevées et à barrière, destinées à maintenir ces petits drôles. Surpris dans une robe de chambre confectionnée avec les restes d'une robe d'indienne à sa femme, Félicien eut un air assez mécontent. As-tu déjeuné, Lousteau? Dit-il en offrant une chaise à Lucien. Nous sortons de chez Florine, dit Étienne, et nous y avons déjeuné. Lucien ne cessait d'examiner Madame Vernou, qui ressemblait à une bonne, grasse cuisinière, assez blanche mais superlativement commune. Madame Vernou portait un foulard par-dessus un bonnet de nuit à brides que ses joues pressées débordaient. Sa robe de chambre sans ceinture, attachée au col par un bouton, descendait à grands plis et l'enveloppait si mal qu'il était impossible de ne pas la comparer à une bonne. D'une santé désespérante, elle avait les joues presque violettes et des mains à doigts en forme de boudin. Cette femme expliqua soudain à Lucien l'attitude gênée de Vernou dans le monde. Malade de son mariage, sans force pour abandonner femme et enfant, mais assez poète pour en toujours souffrir, cet auteur ne devait pardonner à personne un succès. Il devait être mécontent de tout, en se sentant toujours mécontent de lui-même. Lucien comprit l'air aigre qui glaçait cette figure envieuse, l'âcreté des reparties que ce journaliste semait dans sa conversation, la acerbité de sa phrase, toujours pointue et travaillée comme un stylet. Passons dans mon cabinet, dit Félicien en se levant. Il s'agit sans doute d'affaires littéraires. Oui et non, lui répondit Lousteau. Mon vieux, il s'agit d'un souper. Je venais, dit Lucien, vous prier de la part de Coralie. À ce nom, Madame Vernou leva la tête. À souper d'aujourd'hui en 8, dit Lucien en continuant. Vous trouverez chez elle la société que vous avez eue chez Florine et augmentée de Madame Duval Noble, de Merlin et de quelques autres. Nous jouerons. Mais mon ami, ce jour-là, nous devons aller chez Madame Mahoudeau, dit la femme. Et qu'est-ce que cela fait? Dit Vernou. Si nous n'y allions pas, elle se choquerait, et tu es bien aise de la trouver pour escompter des effets de libraire. Mon cher, voilà une femme qui ne comprend pas qu'un souper qui commence à minuit n'empêche pas d'aller à une soirée qui finit à 11 heures. Je travaille à côté d'elle, ajouta-t-il. Vous avez tant d'imagination, répondit Lucien, qui se fit un ennemi mortel de Vernou par ce seul mot. Eh bien, reprit Lousteau, tu viens, mais ce n'est pas tout. Monsieur de Rubempré devient un des nôtres. Ainsi, pousse-le à ton journal. Présente-le comme un gars capable de faire la haute littérature, afin qu'il puisse mettre au moins 2 articles par mois. Oui, s'il veut être des nôtres, attaquer nos ennemis comme nous attaquerons les siens et défendre nos amis, je parlerai de lui ce soir à l'opéra, répondit Vernou. Eh bien, à demain, mon petit, dit Lousteau en serrant la main de Vernou avec les signes de la plus vive amitié. Qu'en paraît ton livre? Mais, dit le père de famille, cela dépend de Doria, j'ai fini. Es-tu content? Mais oui et non. Nous chaufferons le succès, dit Lousteau en se levant et saluant la femme de son confrère. Cette brusque sortie fut nécessitée par les criailleries des deux enfants qui se disputaient et se donnaient des coups de cuillère en s'envoyant de la panade par la figure. Tu viens de voir, mon enfant, dit Étienne à Lucien, une femme qui, sans le savoir, fera bien des ravages en littérature. Ce pauvre Vernou ne nous pardonne pas sa femme. On devrait l'en débarrasser, dans l'intérêt public, bien entendu. Nous éviterions un déluge d'articles atroces, d'épigrammes contre tous les succès et contre toutes les fortunes. Que devenir avec une pareille femme accompagnée de ces deux horribles moutards? Vous avez vu le Rigaudin de la maison à loterie, la pièce de Picard? Eh bien, comme Rigaudin, Vernou ne se battra pas, mais il fera battre les autres. Il est capable de se crever un œil pour en crever deux à son meilleur ami. Vous le verrez, posant le pied sur tous les cadavres, souriant à tous les malheurs, attaquant les princes, les ducs, les marquis, les nobles, parce qu'il est roturier, attaquant les renommées célibataires à cause de sa femme, et parlant toujours morale, plaidant pour les joies domestiques et pour les devoirs de citoyens. Enfin, ce critique si moral ne sera doux pour personne, pas même pour les enfants. Il vit dans la rue Mandar entre une femme qui pourrait faire le mamamouchi du bourgeois gentilhomme et deux petits Vernou, laids comme des teignes. Il veut se moquer du faubourg Saint-Germain, où il ne mettra jamais le pied, et fera parler les duchesses comme parle sa femme. Voilà l'homme qui va hurler après les jésuites, insulter la cour, lui prêter l'intention de rétablir les droits féodaux, le droit d'aînesse, et qui prêchera quelques croisades en faveur de l'égalité, lui qui ne se croit l'égal de personne. S'il était garçon, s'il allait dans le monde, s'il avait les allures des poètes royalistes pensionnés, ornés de croix de la Légion d'honneur, ce serait un optimiste. Le journalisme a 1000 points de départ semblables, C'est une grande catapulte mise en mouvement par de petites haines. As-tu maintenant envie de te marier ? Vernou n'a plus de cœur, le fiel a tout envahi. Aussi, est-ce le journaliste par excellence, un tigre à deux mains qui déchire tout, comme si ses plumes avaient la rage ? Il est gunophobe, dit Lucien. A-t-il du talent ? Il a de l'esprit, c'est un articlier. Vernou porte des articles, fera toujours des articles, et rien que des articles. Le travail le plus obstiné ne pourra jamais greffer un livre sur sa prose. Félicien est incapable de concevoir une œuvre, d'en disposer les masses, d'en réunir harmonieusement les personnages dans un plan qui commence, se noue et marche vers un fait capital. Il a des idées, mais il ne connaît pas les faits. Ses héros seront des utopies philosophiques ou libérales. Enfin, son style est d'une originalité cherchée. Sa phrase ballonnée tomberait si la critique lui donnait un coup d'épingle. Aussi craint-il énormément les journaux, comme tous ceux qui ont besoin des gourdes et des bourdes de l'éloge pour se soutenir au-dessus de l'eau. « Quel article tu fais ?» s'écria Lucien. « Cela, mon enfant, il faut se les dire et ne jamais les écrire. »« Tu deviens rédacteur en chef, » dit Lucien. « Où veux-tu que je t'y jette ?» lui demanda Lousteau. « Chez Coralie. »« Ah, nous sommes amoureux, » dit Lousteau. « Quelle faute ! Fais de Coralie ce que je fais de Florine, une ménagère, mais la liberté sur la montagne. » « Tu ferais damner les saints, » lui dit Lucien en riant. « On ne damne pas les démons, » répondit Lousteau. Le ton léger et brillant de son nouvel ami, la manière dont il traitait la vie, ses paradoxes mêlés aux maximes vraies du machiavélisme parisien, agissaient sur Lucien à son insu. En théorie, le poète reconnaissait le danger de ses pensées et les trouvait utiles à l'application. En arrivant sur le boulevard du Temple, les deux amis convinrent de se retrouver entre 4 et 5 heures au bureau du journal où, sans doute, Hector Merlin viendrait. Lucien était en effet saisi par les voluptés de l'amour vrai des courtisanes qui attachent leurs grappins aux endroits les plus tendres de l'âme, en se pliant avec une incroyable souplesse à tous les désirs, en favorisant les molles habitudes d'où elles tirent leur force. Il avait déjà soif des plaisirs parisiens. Il aimait la vie facile, abondante et magnifique que lui faisait l'actrice chez elle. Il trouva Coralie et Camusot ivres de joie. Le gymnase proposait pour Pâques prochain un engagement dont les conditions nettement formulées surpassaient les espérances de Coralie. « Nous vous devons ce triomphe !» dit Camusot. « Oh certes, sans lui, l'alcade tombait !» s'écria Coralie. « Il n'y avait pas d'article et j'étais encore au boulevard pour 6 ans !» Elle lui sauta au cou devant Camusot. L'effusion de l'actrice avait je ne sais quoi de moelleux dans sa rapidité, de suave dans son entraînement. Elle l'aimait. Comme tous les hommes dans leur grande douleur, Camusot abaissa ses yeux à terre et reconnut, le long de la couture des bottes de Lucien, le fil de couleur employé par les bottiers célèbres et qui se dessinait en jaune foncé sur le noir luisant de la tige. La couleur originale de ce fil l'avait préoccupé pendant son monologue sur la présence inexplicable d'une paire de bottes devant la cheminée de Coralie. Il avait lu en lettres noires imprimées sur le cuir blanc et doux de la doublure l'adresse d'un bottier fameux à cette époque, Gué, rue de la Michaudière. « Monsieur, dit-il à Lucien, vous avez de bien belles bottes. »« Il a tout beau, » répondit Coralie. « Je voudrais bien me fournir chez votre bottier. »« Oh !» dit Coralie, « comme si rue des Bourdonnais ne demandait les adresses des fournisseurs. Allez-vous porter des bottes de jeune homme ? Vous seriez joli garçon. Gardez donc vos bottes à revers qui conviennent à un homme établi, qui a femme, enfant et maîtresse. Enfin, si monsieur voulait tirer une de ces bottes, il me rendrait un service signalé, » dit l'obstiné Camusot. « Je ne pourrais la remettre sans crochet, » dit Lucien en rougissant. « Bérénice en ira chercher, ils ne seront pas de trop ici. » dit le marchand d'un air horriblement goguenard. « Papa Camusot !» dit Coralie en lui jetant un regard empreint d'un atroce mépris. « Ayez le courage de votre lâcheté ! Allons, dites toute votre pensée. Vous trouvez que les bottes de monsieur ressemblent aux miennes ? Je vous défends d'ôter vos bottes » dit-elle à Lucien. « Oui, monsieur Camusot, oui, ces bottes sont absolument les mêmes que celles qui se croisaient les bras devant mon foyer l'autre jour, et monsieur, caché dans mon cabinet de toilette, les attendait. Il avait passé la nuit ici. Voilà ce que vous pensez, hein ?» « Pensez-le, je le veux. C'est la vérité pure. Je vous trompe ? Après, cela me plaît à moi. » Elle s'assit sans colère et de l'air le plus dégagé du monde en regardant Camusot et Lucien qui n'osaient se regarder. « Je ne croirai que ce que vous voudrez que je croie, » dit Camusot. « Ne plaisantez pas, j'ai tort. Ou je suis une femme débargondée qui dans un moment s'est amourachée de monsieur, ou je suis une pauvre misérable créature qui a senti pour la première fois le véritable amour après lequel courent toutes les femmes. » Dans les deux cas, il faut me quitter ou me prendre comme je suis, dit-elle en faisant un geste de souveraine par lequel elle écrasa le négociant. Serait-ce vrai ? Dit Camusot qui vit à la contenance de Lucien que Coralie ne riait pas et qui mendiait une tromperie. J'aime mademoiselle, dit Lucien. En entendant ce mot, dit d'une voix émue, Coralie sauta au cou de son poète, le pressa dans ses bras et tourna la tête vers le marchand de soirée en lui montrant l'admirable groupe d'amour qu'elle faisait avec Lucien. « Pauvre museau, reprends tout ce que tu m'as donné, je ne veux rien de toi. J'aime comme une folle cet enfant-là, non pour son esprit, mais pour sa beauté. Je préfère la misère avec lui à des millions avec toi. » Camusot tomba sur un fauteuil, se mit la tête dans les mains et demeura silencieux. « Voulez-vous que nous nous en allions ?» lui dit-elle avec une incroyable férocité. Lucien eut froid dans le dos en se voyant chargé d'une femme, d'une actrice et d'un ménage. « Reste ici et garde tout, Coralie, » dit le marchand d'une voix faible et douloureuse qui partait de l'âme. « Je ne veux rien reprendre. Il y a pourtant là 60 000 francs de mobilier, mais je ne saurais me faire à l'idée de ma Coralie dans la misère. » Et tu seras cependant avant peu dans la misère. Quelque grand que soient les talents de monsieur, ils ne peuvent pas te donner une existence. Voilà ce qui nous attend tous, nous autres vieillards. Laisse-moi, Coralie, le droit de venir te voir quelquefois. Je puis t'être utile. D'ailleurs, je l'avoue, il me serait impossible de vivre sans toi. La douceur de ce pauvre homme, dépossédé de tout ce bonheur au moment où il se croyait le plus heureux, toucha vivement Lucien, mais non Coralie. Viens, mon pauvre museau, viens tant que tu voudras, dit-elle. Je t'aimerai mieux en ne te trompant point. Camusot parut content de n'être pas chassé de son paradis terrestre, où sans doute il devait souffrir, mais où il espéra rentrer plus tard dans tous ses droits, en se fiant sur les hasards de la vie parisienne et sur les séductions qui allaient entourer Lucien. Le vieux marchand matois pensa que, tôt ou tard, ce beau jeune homme se permettrait les infidélités. Et pour l'espionner, pour le perdre dans l'esprit de Coralie, il voulait rester leur ami. Cette lâcheté de la passion vraie effraya Lucien. Camusot offrit à dîner au palais royal chez Véry, ce qui fut accepté. « Quel bonheur !» cria Coralie quand Camusot fut parti. « Plus de mansardes au quartier latin. Tu demeureras ici. Nous ne nous quitterons pas. Tu prendras pour conserver les apparences un petit appartement rue Charlot et vogue la galère !» Elle se mit à danser son pas espagnol avec un entrain qui peignit une indomptable passion. « Je puis gagner 500 francs par mois en travaillant beaucoup, » dit Lucien. J'en ai tout autant au théâtre, sans compter les feux. Camusot m'habillera toujours, il m'aime. Avec 1500 francs par mois, nous vivrons comme des Crésus. Et les chevaux, et le cocher, et le domestique, dit Bérénice. Je ferai les dettes, s'écria Coralie. Elle se remit à danser une gigue avec Lucien. Il faut dès lors accepter les propositions de Finot, s'écria Lucien. Allons, dit Coralie, je m'habille et te mène à ton journal. Je t'attendrai en voiture sur le boulevard.